Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Musique.
Musique et moi,
Jean-Jacques Haneau,
Priscille Lafitte, France Musique.
Il n'y avait qu'un objet vraiment cher dans le pavillon de banlieue où j'ai passé les premières années de ma vie, un F6X90A, un meuble Philips avec 6 haut-parleurs plus 2 auxiliaires de surround. Le premier appareil stéréophonique disponible en France avec changeur de disque automatique, radio grandes, moyennes et petites ondes et une nouveauté, la modulation de fréquence. Nous écoutions France 4, la seule qui émettait en FM, seulement quelques heures par jour d'ailleurs. Quand le bus scolaire me déposait au coin de la rue, je galopais pour ne pas rater le début de l'émission de Jean Vitold, qui s'appelait « Les grands musiciens ». Musicologue de légende, ce Jean Vitold m'a appris, à raison d'une heure par jour, à comprendre les précurseurs de Bach pendant une année, ce qui m'a fait aimer Buxtehude, Pachelbel, Frescobaldi. Puis l'année d'après, c'était Bach. Puis l'année suivante, les successeurs de Bach. Tout mon argent de poche est passé dans l'achat de disques Archives Production, le label érudit de Deutsche Grammophon consacré à la musique baroque. Ces vinyles sont toujours dans un état impeccable et ils m'enchantent encore. Je continue à travailler en musique chaque jour, classique souvent, mais aussi jazz et beaucoup de musique du monde. France 4 est devenue depuis France Musique. Merci à votre antenne.
Thank you.
Bonjour et bienvenue Jean-Jacques Hanau.
Merci, bonjour.
Vous êtes cinéaste, vous avez ressorti sur les grands écrans en version restaurée Le Nom de la Rose, ce film qui date de 1986, restauré à partir des négatifs de la pellicule. Mais avant de vous demander à expliquer les circonstances dans lesquelles vous avez pu travailler certaines de vos musiques de films, j'aimerais que nous fassions un peu plus connaissance. Et tout d'abord, merci pour ce témoignage de votre attachement à notre radio, à nos ondes de France Musique. Est-ce que cet enregistrement que nous venons d'entendre du double concerto pour violon en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, avec David et Igor Oistrakh, est fidèle à ces souvenirs que vous avez convoqués?
Ah oui, absolument. C'est un des premiers disques que j'ai acheté. Ce n'était pas un Archive Production, celui-là, c'était un Deutsche Grammophon, je crois.
Oui.
Et moi, je faisais du violon, enfin j'essayais à l'époque. Je prenais des cours tous les jeudis, l'après-midi. Mais quand j'entendais ça, je savais que j'y arriverais pas, quoi. C'était trop beau, trop magnifique.
Parce que vous n'aviez pas eu comme père David Oistrakh, peut-être.
Non, ma mère jouait du violon. Elle jouait la Xardas de Monti et je sais plus quoi.
Donc celle qui vous enseignait?
Non, c'était mon professeur de maternelle, qui était un très bon violoniste, qui était un homme charmant, il s'appelait Monsieur Bourgoin. Et ce Monsieur Bourgoin essayait de me faire jouer très bien du violon. Mais il faut passer beaucoup de temps pour bien jouer du violon. Et moi, mon ambition, c'est de faire du cinéma. Donc, j'ai consacré mon temps à apprendre à me servir d'abord d'un appareil photo, quand j'ai eu mon premier appareil photo à 7 ans, et puis ensuite ma première caméra à 10 ans et demi. Et j'ai passé tout mon temps à faire des petits montages, à sonoriser mes petits films.
Et peut-être après... que l'amour de l'écoute de cette musique passait même avant sa pratique?
Mais oui, si vous voulez, ça m'a toujours exalté d'entendre des grands musiciens de tous instruments. J'adore le basson, par exemple. J'adore le tuba. J'adore les instruments étranges. J'ai la chance d'avoir été l'ami de très grands compositeurs de musique, de films. Évidemment, je regrette beaucoup la mort de James Horner, mais j'ai récemment parlé encore à John Williams, avec lequel j'ai fait 7 ans au Tibet. Enfin, il a fait la musique de 7 ans au Tibet avec Yo-Yo Ma comme interprète. C'est les journées merveilleuses pour moi. Quand Yo-Yo Ma joue pour votre film, avec un orchestre magnifique, c'est un frisson.
Est-ce que vous vous intéressez finalement, avant même que vous vous intéressiez au cinéma, est-ce que la musique est un premier amour?
Oui.
Ou chronologiquement, ça arrive en même temps?
Dans mon enfance, je suis allé beaucoup au cinéma avec mes parents, qui n'allaient voir que les films bien critiqués dans la revue qui s'appelait La Vie du Rail. Et il y avait des critiques d'un très bon critique qui s'appelait Charançol, qui était célèbre. Et mes parents détestaient le cinéma américain. Donc on allait voir les films japonais, les films italiens beaucoup, les films français. Et ça a été ma culture. Et pour moi qui habitais la banlieue, c'était l'ouverture sur le monde, si vous voulez. J'adorais cet écran qui s'illuminait et d'un seul coup je voyageais. Et j'ai donc appris le cinéma. À l'époque, figurez-vous, la radio, c'était quand même pas terrible, et il y avait que des 78 tours. Le micro-sillon est arrivé dans les années 50, et c'est là où mes parents ont acheté cette machine que j'ai toujours. C'est une machine extraordinaire où on peut passer encore des 78 tours. J'en ai gardé de l'époque, de Georges Till à l'opéra, etc. Je vais pas vous dire que j'écoute ça tous les jours, mais j'ai quelques disques en 16 tours 2/3. Et cette machine permet de le passer en stéréo magnifique. Alors ça coûtait une fortune, mes parents étaient pas très riches, mais ils étaient saignés pour ça. Donc si vous voulez, j'ai plongé dans la musique après le cinéma.
Le baromètre s'amuse à monter pour annoncer l'été et les vacances. En frappant le sol de mes souliers cloutés, ici je viens chercher ma récompense. La bonne auberge du Cheval Blanc, séjour aimable et troublant. Pour toi le bonheur s'apprête, au seuil de la porte il te guette. Regard tendre et caressant, l'accueil le plus séduisant, c'est l'amour ami qui t'arrête à l'auberge du Cheval Blanc. À travers les monts, comme au flanc des coteaux, le soleil est plus beau, plus doux c'est l'air. Chez ma tendre amie, me voici revenu. Suis-je le bienvenu en sa demeure? La bonne auberge du Cheval Blanc, séjour aimable et troublant. Pour toi le bonheur s'apprête, au seuil de la porte il te guette. D'un regard tendre et caressant, l'accueil le plus séduisant, c'est l'amour ami qui t'arrête à l'auberge des Chevals Blancs. Tendre et caressant, l'accueil le plus séduisant, c'est l'amour ami qui t'arrête à l'auberge des Chevals Blancs.
Novembre 1948, l'enregistrement de l'auberge du Cheval Blanc, c'est version française hein, d'une opérette allemande qui date de 1930. On entend ici le baryton Gaston Fontanière. Et puis moi, j'ai eu le droit aussi à la chorégraphie de Jean-Jacques Hannaud dans ce studio.
Non, attendez, moi j'étais tout petit, j'avais 4 ans, quelque chose comme ça. Et mes parents m'ont emmené au Châtelet pour me faire découvrir la comédie musicale, enfin ce qu'on appelait l'opérette.
Parce que dans ces années-là, il y a quand même 1700 représentations de cette opérette au Théâtre du Châtelet. C'est énorme.
Oui. Oui, et donc c'était un succès considérable.
Dans les années 50,
60. Alors, moi j'avais trouvé ça très charmant et un peu con, mais ça m'avait plu. Et du coup, j'aime beaucoup regarder les comédies musicales de mes grands confrères comme Minelli, etc., qui sont les héritiers de l'opérette française. La comédie musicale s'était inventée ici à Paris, grosso modo, avec Offenbach et tout ça. Donc, oui, c'est assez enchanteur. Ça fait un grand nombre d'années que j'avais pas réécouté l'Auberge du Cheval Blanc.
Et pourtant, j'ai bien vu que vous pouviez le chanter quasiment mot pour mot.
Oui, je me souviens de quelques refrains, et puis je me souviens des ballets, et puis je me souviens des figurants qui trimballaient des valises vides avec un carrosse en carton. Enfin bon, si vous voulez, il y a une espèce d'enchantement que parfois j'essaye de retrouver même dans certains de mes films. Il y a une certaine innocence qui est très agréable. Puis en plus, la salle reprenait en chœur. Donc c'était extraordinaire, c'est un vrai moment d'amitié, de sympathie, c'est des musiques sans prétention.
Alzatevi, partite, alcun vivente più non vedrete, dello specchio il bronzo ne avverta. E periglio vi sovrasti, o per voi giunto sia l'estremo giorno a comportarvi l'alma volerem, pria che addio faccia. Oh,
Force du destin de Giuseppe Verdi, Rosa Poncel et Ezio Pinza avec l'orchestre du Metropolitan Opera de New York dirigé par Giulio Setti. Un choix que vous avez fait, Jean-Jacques Haneau, avec une envie, une idée très très précise de l'endroit où vous vouliez faire commencer la musique, la faire l'arrêter. Et est-ce que, de la même manière que vous orchestrez aussi vos propres films, vous pensez finalement en termes d'opéra ? Est-ce qu'il y a des liens ? Est-ce que l'opéra est cinématographique ?
Oui, bien sûr, c'est de la musique de scène. Et là, si vous voulez, ce qui me touche dans ces enregistrements, c'est que c'est pas bidouillé, c'est des vrais gens qui sont devant un micro, avec l'orchestre derrière. Là, depuis des années, on travaille au clic. C'est-à-dire, vous avez un orchestre de 200 musiciens, ils n'entendent pas le voisin. Ils entendent le métronome. Donc, après, on a des heures et des heures de mixage. C'est-à-dire que le mixeur devient quelqu'un de très important. Mais là, vous avez un chanteur et une chanteuse, les deux merveilleux, un chœur. Alors, il y a peut-être un micro pour le chœur, un micro ou deux, si on est en stéréo, pour l'orchestre. Là, on entend quoi ? Une harpe, c'est une vraie harpiste qui est devant le micro. Tout le monde participe à l'émotion. Et pour avoir des musiques émotionnelles comme ça, ben on n'a quasiment plus. Parce qu'on fait de la musique artificielle, si vous voulez. Il n'y a plus la vie, il n'y a plus l'émotion. Moi, mon travail, c'est, je suis très copain avec Ridley Scott, à chaque fois qu'on se voit, on dit on n'est pas dans motion picture industry, on est dans emotion picture industry. dans le métier de l'émotion. Un film sans émotion, ça ne vaut rien, ça ne dure pas.
Et est-ce que justement, là, dans la présence à l'écran d'un acteur, on peut rechercher cette même intensité qu'il y a dans la voix d'un chanteur d'opéra ?
Oui, quand c'est un vrai acteur, si c'est un acteur fait par l'intelligence artificielle, bon, il chantera juste. Vous savez, ce qui se passe, ça fait des années, moi j'adore être à tous mes enregistrements, j'ai des rapports très chaleureux avec mes grands compositeurs avec lesquels j'ai travaillé. Mais aujourd'hui, quand vous avez des gens qui chantent faux, il y a un petit appareil qu'on met en route et puis ils chantent juste. Et quand vous avez un orchestre qui fait un pain, autrefois, on recommence, quand il y avait, je sais pas moi, un trombone qui se trompait de note, on refaisait la prise.
Oui, mais il ne tient qu'à vous de travailler dans ces conditions-là ?
Non. Parce que ça coûte beaucoup d'argent. C'est, maintenant, on appelle ça la musique de garage. Parce qu'il y a des gens qui ont des ordinateurs, qui savent bien s'en servir, et ils font ting-tang-tung, ting-tang-tung, ting-tang-tung. Et puis, ils peuvent faire avec ce que je vous ai chanté, une musique avec un chœur, effectivement, mais qui sera artificielle. C'est-à-dire que, oui, ça sonnera juste, ça sera nettoyé, mais ça n'aura pas la vie. Quand on va, les gens qui aiment, je sais pas, voir un groupe de jazz ou n'importe quoi, vous êtes avec les musiciens. Vous entendez même les petites erreurs, les petites notes pas complètement justes. Mais c'est ça la vérité de la vie. Et c'est ça qui est beau. Et quand je filme mes acteurs, c'est ça que j'attends d'eux. Ils sont dans un décor, dans le vent. Alors de temps en temps, bien entendu, je les mets sur des fonds bleus parce que j'utilise la technologie depuis très longtemps. J'adore la technologie moderne. Je suis loin de la refuser. Mais j'aime bien aussi me rappeler ce qui a fait la grandeur de la musique symphonique. Et voyez-vous, avec James Horner, qui est donc le compositeur qui a fait les Cameron, Titanic et tout ça, on a fait renettoyer l'écran de projection de Abbey Road. Parce qu'on a voulu enregistrer aussi les dernières musiques que j'ai fait avec lui, avec un micro qu'on appelait un micro boule, qui coûte une fortune, parce que c'était fait pour les enregistrements des années 50. Maintenant, les gens se battent pour avoir ça. Parce que, au lieu d'avoir 200 bandes, et qu'il faut réunir en 2 ou 6, là, on a un orchestre qui joue sous la direction du compositeur, qui a la baguette, et qui regarde et qui modifie l'émotion, le degré d'émotion, qui va décider que les corps sont un peu trop forts, que le violoncelle, on n'en a pas assez, tout de suite, pendant la prise. Mais c'est merveilleux, ça. Donc, c'est ça que j'essaye de retrouver dans le cinéma.
Alors, ce que nous venons d'entendre, ce n'est pas la bande-son du film Alexandre Nevsky, mais un réenregistrement plus tardif, en 1977, par Leonard Zlatkin, avec l'Orchestre Symphonique de Saint-Louis. Mais c'est une version qui vous convient bien à vous?
Oui, parce qu'elle est stéréo. Elle est stéréo. Le film a été enregistré en mono, donc il n'y a pas la brillance qu'on a entendue. Et là, c'est un exemple qu'ont suivi tous les compositeurs de musique de film après, parce que c'est un des plus beaux morceaux de musique de film. Prokofiev s'est mis au service des Einstein, ils s'entendaient très très bien. Il y a aussi Ivan le Terrible qui est magnifique. Et
c'est un modèle pour vous de collaboration entre réalisateurs et compositeurs.
Oui, bien sûr, mais vous savez, je m'occupe des costumes, je m'occupe des accessoires, je m'occupe de tout, avec la collaboration de gens de grand talent qui m'amènent mieux que ce que je veux.
Le problème. Vous occupez aussi de musique.
Mais bien entendu, parce que c'est un domaine que je contrôle moins, parce que je coécris le scénario toujours. Sur le plateau, c'est moi qui dirige les acteurs, c'est moi qui demande la direction de lumière, etc., qui gère avec le chef opérateur les contrastes. Qu'est-ce que vous dites à vos compositeurs pour que, dans une scène de charge où le cavalier sait qu'il va mourir, est-ce que je fais une musique qui fait padadam, 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 ou est-ce que je fais au contraire une musique qui va parler de son âme qui désespère car il sait qu'il va mourir? Mais parce que, et je dis quoi? Je dis je veux une musique sentimentale? Non, surtout pas. Comment je fais? Ben, ce que je fais, c'est que je dois être hyper copain avec mes compositeurs, et j'ai eu des gens comme Philippe Sard, Gabriel Yared, aux États-Unis évidemment, James Horner et John Williams. Si vous voulez, voilà des gens remarquables, mais je vais au concert avec eux. On échange sur le fond. C'est-à-dire, qu'est-ce que le film veut dire? Et très souvent, on illustre les scènes. Mais non, il faut illustrer l'histoire, la narration et l'émotion des personnages. Mais de quel personnage? Est-ce que c'est la musique de la fille ou est-ce que c'est la musique du mec? Est-ce qu'on a besoin cette fois-ci d'être avec les chevaux? Parce que c'est les chevaux qui vont mourir. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut discuter avant.
Et à quel moment, justement, intervient le compositeur quand vous dites « avant » ?
Alors, c'est à la fin du premier montage, mais parfois sur l'amant, par exemple. Je travaillais avec Gabriel Yared, on m'avait proposé de mettre en scène les Jeux Olympiques d'Albertville, et on se voyait très souvent. Et je lui parle de l'amant, et je lui dis, je voudrais une musique pentatonique, mais très simple. Et il se met au piano, il fait pom 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 pom, il me dit un arpège comme ça, pom 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 pom. Je lui dis, c'est parfait, c'est ça. Il me dit, non, mais attends, j'ai fait n'importe quoi. Mais je lui dis, t'as pas fait n'importe quoi, c'est parfait. Fais ça. Alors il était très étonné, il l'a fait remarquablement. Il a eu d'ailleurs le César de la meilleure musique, et puis dans plein de pays, et le film a eu un très grand succès, en partie grâce à cette musique remarquable. Parce que Gabriel avait compris l'âme du film. Il était le premier à voir mon premier montage. Il est ressorti pratiquement en larmes. Mais j'ai plus besoin de dire grand-chose. On se connaissait, on aimait les mêmes choses, on allait au concert ensemble, on se voyait une fois par semaine à dîner.
C'est-à-dire qu'ensuite, vous revoyez le montage en fonction de la musique?
Oui, ça s'appelle le
retravailler.
Ça s'appelle le spotting. Ouais. C'est-à-dire que je montre au compositeur sans ma présence. Il faut qu'il soit seul face à l'écran. Ensuite, on regarde le film ensemble. Et ce qui est de merveilleux, par exemple, avec James Horner, c'est que on appuyait sur le stop au même moment. On disait, ah, là, allez, l'entrée des basses. Et puis on continue. Là, allez, on quelques notes du thème, mais on le cache. Ensuite, ah, là, allez, on fait entrer les cordes. Et puis, allez là, plein pot, le thème. Mais si on dit pas ça, ça, c'est l'émotion qui va fonctionner. J'ai une scène que j'aimais beaucoup dans L'Amant, où j'étais dans une voiture, et c'est la première fois où la jeune fille est presque de ce Chinois, il y a leurs mains qui se touchent sur la banquette. Mais attendez, pendant tout le début, on n'a que du son naturel. On a le son de bagnole et de klaxon. Et quand vous faites rentrer tout discrètement un bout de thème, mais vous le cachez, ensuite, quand vraiment elle part dans l'amour, mais là, je fais rentrer le thème. Et d'un seul coup, le public y va, il comprend. Mais si je fais pas ça, et que je dis rien à mon compositeur, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il sait pas ce que je veux. Enfin bon, les compositeurs sont généralement très fins spectateurs. Et c'est pour ça que je redoute toujours ce moment, parce que s'ils sortent et qu'ils n'ont pas bien aimé le film, je sais que je vais être en difficulté. Enfin, ça ne m'est pas arrivé souvent, même pas du tout d'ailleurs. Mais enfin, si vous voulez, j'ai toujours cette crainte.
Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir d'abord une musique sur laquelle vous souhaitez inscrire des images?
En comédie musicale, oui, j'ai pas fait de long métrage en comédie musicale, mais j'ai fait de nombreuses pubs en comédie musicale. Donc là, on travaille évidemment avec une musique faite, on enregistre et on diffuse cette musique.
Mais sur un long métrage, vous n'avez jamais procédé de cette sorte?
Non. Parce que, si vous voulez, je pense qu'on fait de la musique après montage. C'est pas tout à fait la même que sur le tournage. Les émotions sont pas forcément au même endroit.
La bande-son du Nom de la Rose, composition de James Horner, sur votre film en 1986. Film qui ressort sur les grands écrans, il est restauré.
Magnifiquement, oui. C'est pas moi qui l'ai fait, donc je peux en parler en toute objectivité.
À partir des négatifs, je crois, du film.
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous avez retouché aussi à la bande-son?
Alors, oui, c'est-à-dire que on a pu l'épanouir, j'ai envie de dire. En fait, ce que vous écoutez, c'est, je l'ai appris en découvrant un texte de quelqu'un qui est en train d'écrire un très grand livre sur James Horner, et j'ai découvert que c'était en fait la première musique de film sur synthétiseur. Parce que nous avions décidé avec James d'utiliser des instruments anciens, mais on s'est aperçu que plus personne ne savait en jouer, que ceux qui savaient en jouer ne lisaient pas le solfège et que les harmonies ne convenaient pas. Donc on a été dans les musées enregistrer des samples d'instruments anciens, on a fait sortir les vieux instruments, et après on les a tripatouillés à l'ordinateur.
Dans les années 80, vous aviez quand même un renouveau des musiques médiévales, vous aviez quand même des...
Ah oui, bien sûr.
Des instrumentistes. Alors, qui pouvaient
non,
vous proposer
parce que
des
c'est,
choses.
Non, qui sait jouer de la viole à rouet?
Si.
À l'époque, on n'a pas trouvé. On a pensé que c'était plus simple d'utiliser ces technologies extrêmement nouvelles. On avait fait venir des camions semi-remorques d'Australie, figurez-vous. J'ai fait la musique à Munich. Et ça durait des plombes, parce que chaque élément sonore que vous entendez, il fallait que nous l'écoutions, qu'on décide à quel niveau on allait le mettre, quelle réverbération on allait faire. Bien entendu que lorsque vous entendez une voix céleste, ça, on l'a enregistré, mais elle est pleine de réverb. Donc, si vous voulez, c'était très laborieux comme processus, et James a eu cette très très bonne idée d'utiliser des clochettes. Alors, ça, ces clochettes, on les a enregistrées et on les a modifiées. Et alors figurez-vous qu'il y a quelques années, je rencontre Hans Zimmer pour un projet de film et je me présente. Mais il me dit, Jean-Jacques, attendez, on a passé 2 mois ensemble à Munich. C'était le gars qui était derrière l'oscilloscope. L'oscilloscope, c'est une espèce de machine qui enregistrait la courbe du son comme à l'hôpital, si vous voulez. Et c'était lui qui nettoyait, qui refaisait la courbe, si vous voulez, Hans, qui a fait maintenant tous ces grands films, on ne parle que de lui à Los Angeles. Mais c'était un processus très, très fascinant. Moi, je me souviens, j'étais très content d'utiliser cette technologie complètement novatrice. Et il fallait réfrigérer ces camions semi-remorques, et c'était dramatiquement compliqué.
Mais alors, est-ce que vous y avez retouché à présent que le film ressort sur les écrans?
Ah non.
Là, c'est la même son.
Non.
La même bande-son.
C'est la même bande-son, mais en mieux. C'est-à-dire que aujourd'hui, les technologies permettent... Hier, je revoyais le film dans une salle où il y a 75 haut-parleurs. Et donc, ça vous permet... vous êtes englouti dans la musique. Et ça, on ne pouvait pas l'avoir autrefois. On avait simplement un Dolby avec, grosso modo, 2 voix.
Thank you.
Le concerto pour oiseaux et orchestre, Cantus Arcticus, d'Eino Juhani Rautavaara, ce compositeur finlandais, c'est une commande de 1972, mais à laquelle vous vous intéressez encore aujourd'hui, Jean-Jacques Hanau. Pourquoi ? Parce que justement, c'est intéressant, cette confrontation d'une bande-son d'enregistrement de chants d'oiseaux, de cris d'oiseaux, et cet orchestre.
Vous savez,
c'est la conjonction des deux qui vous intéresse là, ici.
Oui, d'abord, je trouve ça tout à fait original. Moi, j'aime beaucoup la musique scandinave. Grieg, Sibelius, évidemment. Et là, je n'oublie pas que l'origine du chant humain, c'est souvent l'imitation de cris d'animaux et de chants d'oiseaux. J'ai vécu en Mongolie pas mal de temps sur un film qui s'appelle Le Dernier Loup. Et c'est merveilleux parce qu'en fait, la musique mongole, qui est une musique véritablement mélodique, ce sont des mélodies d'abord d'oiseaux et de rythmes de pas de chevaux. Mais c'est formidable. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est dans le terroir, on est dans la vie, dans ces prairies de fleurs. Et donc, là, l'idée d'enregistrer c'est certainement des grues, vous savez. Quand on est près des lacs en Finlande et que vous voyez passer ces vols interminables de grues et qui chantent pour se rassurer, pour se guider et avoir l'idée de mettre cette mélodie. Évidemment, si vous voulez, ça m'évoque les paysages rabotés à l'époque où il y avait des glaciers dans tout le nord de la Finlande. Mais bon, j'aime les musiques particulières, j'aime les musiques singulières, et celle-là me plaît parce que c'est une musique pastorale.
Oui, puis c'est une parfaite musique de film.
Ah oui, oui.
Par la rencontre entre l'orchestre et les chants d'oiseaux, il y a une différente couche d'écoute.
Oui, je l'avais mis en... Vous savez, des fois, on fait une musique temporaire, tout simplement pour voir ce que ça donne avec de la musique. Et je l'avais mis sur l'ouverture du Long de la Rose, ça. Parce que j'avais un paysage de montagne, j'avais trouvé dans les Abruzzes, etc. Et ça marchait très bien. C'est-à-dire que...
En plus de ça, pourquoi vous ne l'avez pas retenu ?
Ah non, parce que j'ai voulu... Je ne peux pas faire des musiques temporaires, c'est-à-dire des musiques qui n'ont pas la même âme. Il faut unifier. Donc, vous donnez à un compositeur une histoire à raconter, pas seulement des scènes à illustrer. Quand on fait les musiques temporaires, c'est justement pour un peu soutenir les scènes. Et là, je voulais placer ce film, qui se passe au XIVe siècle, dans une atmosphère un peu légendaire, abstraite, mais... Jolie à écouter et insolite. Voilà, c'était ça. Et j'avais aussi choisi un solo de violoncelle de Kabalevski qui me plaisait aussi beaucoup. C'était mes musiques guides.
Alors après Rautavaara, ici le concerto pour violoncelle numéro 1 de Dmitri Kabalevski, un concerto d'un compositeur soviétique par excellence. Mais qu'est-ce qui vous amène donc à vous intéresser, à tomber sur ces musiques-là?
Parce que j'écoute
Kabalevski,
tout. J'écoute tout, j'écoute
Rautavaara.
Mais si vous voulez, Kabalevski, c'est ce qu'on appelle, l'interprétation est ce qu'on appelle schmaltz. Quand on est avec un orchestre, j'enregistre beaucoup en Angleterre, donc des fois on me dit, est-ce que c'est pas trop schmaltz? C'est-à-dire mièvre, mielleux, etc. Il faut bien comprendre que la musique de film, c'est une musique qu'on écoute en regardant. Et en regardant quoi? Une histoire parfois très tendue. Donc, les gens font pas attention qu'il y a une musique derrière qui va être comme ça langoureuse. Mais ça indique que, par exemple, le cœur palpitant du novice, alors qu'il est en train de chercher des cadavres, pense à la jeune beauté paysanne dont il vient de découvrir le corps chaud et amoureux. Donc, si vous voulez, il ne faut pas concevoir la musique de film comme une musique à écouter seule. Elle est faite pour accompagner une histoire et accompagner les émotions des personnages principaux. Et donc ça, voilà une musique. J'aime beaucoup le violoncelle, mais il faut dire que là, la violoncelliste en fait des tonnes.
Marina Tarasova,
oui, mais le violoncelle. Mais si vous voulez, c'est aussi l'âme slave, vous savez. Moi, mes filles marchent très bien en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Tchéquie. Et j'aime ces musiciens qui osent parler de la douleur, du chagrin, de l'amour. On a vécu une période où il faut pas la mélodie, tout ça, c'est moche, c'est pas intelligent, c'est pas chic. Mais, vous savez, encore une fois, s'il y a pas d'émotion dans un film, et cette émotion, il faut la traiter discrètement. C'est-à-dire qu'une musique comme ça, vous la mettez derrière le dialogue. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle ne s'impose pas. Mais elle touche l'oreille du spectateur et son cœur.
Comment est-ce qu'elle vous touche, vous, en premier lieu? Comment est-ce que vous tombez dessus?
Alors, quand je me balade dans le monde, j'ai toujours pris l'habitude d'acheter énormément de musique de compositeurs que je ne connais pas. Et je reviens avec, à l'époque, je revenais avec des piles de micro-sillons parce que ça ne coûtait rien en Union soviétique, ça ne coûtait rien nulle part dans ces pays-là. Il y avait des orchestres bulgares magnifiques, des orchestres roumains, et je découvrais des sonorités magnifiques. Et c'est important d'apporter quelque chose d'inconnu au public. La flûte de Pan, par exemple, j'avais conseillé à Yves Robert de prendre de la flûte de Pan pour le Grand Blond et la Chausseur Noire, je pense. Et il savait pas du tout ce que c'était la flûte de Pan et il savait pas qu'il y avait un génie roumain qui en jouait magnifiquement.
Ou encore le chant diphonique mongol que vous avez dit un peu plus tôt.
Oi, and I should try and get a gay and I did. nezirlen aray haray çıkayım avuraldı urgalla ben huvayden berol.
Un gars qui arrive avec sa viole à tête de cheval, ça s'appelle comme ça, qui joue un petit violoncelle, il a encore de gratter, et puis qui se met à chanter deux voix en même temps. C'est-à-dire qu'il se débrouille pour avoir une voix dans le nez et une voix dans la gorge. Et donc ça, c'est une seule personne qui chante et on croit que c'est de l'électronique. Mais moi, ça m'accompagnait tous les soirs. Après le tournage, il y avait des musiciens qui venaient dans les yourtes pour chanter ça. Et c'est revenu très, très populaire en République de Chine. Toute la partie nord du pays, qui est mongole, les jeunes gens apprennent ça et sont très, très fiers de cette spécialité. C'est très beau de voir un retour aux sources culturelles de beaucoup de pays dans le monde. Finalement, ils en ont marre que la musique leur soit imposée par la musique américaine ou anglo-saxonne, et ils retournent aux sources.
Là, vous parlez du Dernier Loup.
Je parle du Dernier Loup, mais je continue à écouter ça parce que ça me fascine, cette musique de gorge. Et puis, ça me rappelle tellement de souvenirs parfumés, si vous voulez. Dans les yourtes, on faisait des espèces de soupes avec du lait de jument. C'est incroyable, c'est un autre monde. Mais moi, j'adore, si vous voulez, comprendre mon pays, la France, dans des points de vue différents. Quand je parle aux éleveurs de chevaux mongols, qu'est-ce que c'est pour eux la France? Eh bien, figurez-vous qu'ils savent. Ils me répondent Victor Hugo, ils me répondent Stendhal, et ils sont éleveurs de chevaux. Et ça, je peux vous dire qu'au Texas, c'est pas le cas.
Merci beaucoup, Jean-Jacques Hanau, pour toutes ces évocations culinaires, musicales et cinématographiques. Je rappelle donc que votre film Le Nom de la Rose, de 1986, ressort sur les écrans dans une meilleure définition, et avec même un travail sur les couleurs et sur la lumière à partir des négatifs. Merci à toute l'équipe qui a œuvré à ce Musique et moi ce matin. Éric Boisset à la technique, Claire Lagarde à la réalisation, Maud Nourry attachée de production. Passez un très bon dimanche sur France Musique.
Bon dimanche.
Et la semaine prochaine, 11h, pour de nouveaux émois musicaux.
À réécouter sur francemusique.fr.